Jean-Jacques.
Bonjour Maxime Prévost.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur RFI. Avant d'évoquer la situation au Proche-Orient, un mot de la mort de deux membres de l'ambassade israélienne à Washington. Ils ont été abattus il y a quelques heures près du musée juif de la capitale américaine. Le tireur a crié « Libérez la Palestine ». Votre réaction, monsieur le ministre ?
C'est évidemment quelque chose d'inacceptable que nous devons dénoncer avec force. Il ne peut pas y avoir de deux poids, deux mesures. En l'occurrence, tout acte de violence, tout acte antisémite doit être condamné avec la même fermeté et indignation que celle qui nous gagne depuis déjà de nombreuses semaines et mois à la lumière de ce qui est vu et vécu à Gaza, en Cisjordanie ou en territoire d'Israël de manière générale. Et donc c'est symptomatique d'une escalade qui a fait trop de victimes, qui va continuer à en faire, pour laquelle nous devons éviter que ce qui se passe là-bas ne soit importé ici et que ça vienne finalement créer une vague de violence supplémentaire aux quatre coins de la planète.
Oui, Maxime Prévost, venons-en à ce qui s'est passé hier à Jenin, en Cisjordanie. Des diplomates étrangers de 25 pays, dont la Belgique, ont dû écourter leur visite après des tirs de l'armée israélienne. Est-ce que ce matin, vous savez très précisément ce qui s'est passé ?
Écoutez, j'ai été évidemment particulièrement choqué, comme mes homologues, dès lors que nous avons été informés de ces tirs sur ces délégations de diplomates. J'ai aussitôt sommé mon chef de cabinet de contacter sur le champ notre ambassadrice qui était ici, l'ambassadrice d'Israël à Bruxelles, pour lui faire part de notre colère, de notre indignation et de la condamnation de cette attitude. Nous avons exigé effectivement qu'il y ait des explications convaincante. Nous avons reçu des explications. Je ne peux pas nécessairement dire qu'elle m'est convaincue, mais...
Pourquoi, monsieur le ministre, pourquoi n'êtes-vous pas convaincu ? Vous avez entendu, j'imagine, l'armée israélienne parler de tirs de sommation. Est-ce que c'est la version que vous avez également ?
C'est la version qui a été procurée. Quand on voit certaines images, on voit que les armes sont tenues à l'horizontale, ce qui est rarement ce qui est a priori la posture d'un tir de sommation.
Donc vous doutez de la version officielle ? Vous doutez de cette version israélienne ?
Je n'ai pas d'éléments, outre ceux qui sont plus du ressort intuitif, pour pouvoir contrecarrer une version officielle. J'ai juste les témoignages aussi de certaines personnes qui étaient sur place. Nous savons que le convoi était identifiable au niveau des véhicules et que le trajet avait été préalablement concerté avec les autorités israéliennes. En tout état de cause, je pense qu'on pourra longtemps jouer au chat et à la souris et à essayer de dire ou contredire les versions officielles. Il n'en demeure pas moins qu'il faut d'abord se réjouir qu'il n'y ait eu aucun blessé et s'indigner évidemment qu'il y ait Israël à travers ses forces armées qui s'en prennent à un convoi diplomatique. Je pense que c'est à nouveau très illustratif d'une escalade de tension qui n'a que trop duré et pour laquelle Israël doit aussi se ressaisir.
Vous nous dites ne pas être forcément convaincu par les explications. Est-ce que vous réclamez, à l'image du secrétaire général de l'ONU, une enquête approfondie et précise sur cet incident ?
Je pense qu'elle s'impose, effectivement, et ça a été également le souhait formulé par la haute représentante à la politique extérieure de l'Union européenne, Kaya Kallas, hier à Bruxelles.
Donc pour l'heure, monsieur le ministre, vous nous dites que l'incident n'est pas clos, il faut avoir des précisions.
Je pense que c'est la moindre des choses que nous devons à l'égard des diplomates qui ont été pris à partie.
Alors, au-delà de cet incident particulier, je voudrais bien évidemment qu'on vous entende sur la situation dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a lancé une offensive terrestre, promet de prendre le contrôle total du territoire. Mais hier soir, on a entendu le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, se dire prêt à accepter un cessez-le-feu temporaire afin de libérer les otages israéliens. Est-ce que vous croyez à une trêve, Maxime Prévost ?
Écoutez, nous avons le devoir de l'optimisme quand nous exerçons nos responsabilités. Et donc, il faut saisir toute opportunité, aussi mince soit-elle, aussi interpellante puisse-t-elle être quant à la fiabilité de l'annonce. Mais nous devons croire qu'une trêve est possible. Elle doit en tout cas s'installer le plus rapidement possible, permettre évidemment la libération des otages. Mais l'urgence, ne la négligeons pas, est aussi criante quant à la livraison d'aide humanitaire. Il est inacceptable qu'Israël fasse un blocus humanitaire, qu'il y ait des hommes, des femmes qui sont en train de crever de faim et de soif, alors que c'est perçu et mis en œuvre de manière assumée et volontaire comme une stratégie de guerre au détriment de tous les enjeux de droit international et a priori de droit humanitaire.
Ce blocus, monsieur le ministre, blocus, il est peut-être en train de s'arrêter puisque après plus de 2 mois et demi de passage absolument interrompu, les Nations Unies nous disent depuis quelques heures qu'elles ont commencé à faire entrer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. C'est donc une bonne nouvelle.
Alors en soi, oui, même si ces derniers jours, on a vu que les convois étaient assez ténus. On parlait au départ de 4-5 camions, puis de quelques dizaines, là où il en faudrait 500 à 600 par jour. Alors si sur base de ce que vous me dites, on est maintenant rentré dans une autre étape, c'est-à-dire celle réellement des portes largement ouvertes pour que cette aide humanitaire
puisse être livrée. Pour l'instant, une centaine de camions, pour être précis. Une centaine de camions plutôt que les 5 ou 600, effectivement, que réclament les organisations humanitaires.
Ouais. C'est donc toujours bon à prendre, mais c'est incontestablement insuffisant. La communauté internationale doit rester mobilisée. C'est un des messages forts que la Belgique, avec d'autres pays européens, dont la France, nous avons veillé à le délivrer en début de cette semaine. Nous avons souhaité être plus fermes dans le ton, plus prompt dans la réaction. La Belgique a elle-même envisagé de travailler, et nous sommes en train de l'étudier, sur un pont aérien pour pouvoir contourner ce blocus et faire de la livraison par voie aérienne d'aide alimentaire si c'est nécessaire, tant le degré d'horreur atteint doit nous amener à envisager toutes les pistes possibles, aussi compliquées soient-elles sur le plan opérationnel. Mais cette urgence humanitaire, elle est prioritaire.
C'est la priorité, je vous entends. Être plus ferme, ça veut dire que la Belgique, comme 16 autres pays européens, se prononce pour la révision de l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne.
Effectivement, nous avons apporté notre soutien aux côtés de 16 autres pays pour pouvoir majoritairement envoyer ce signal au niveau européen, et donc le processus va être lancé maintenant par l'initiative de Kaya Kallas, haute représentante, de manière à pouvoir analyser au terme de ce processus si oui ou non des conditions sont réunies pour une suspension totale ou partielle de ces échanges commerciaux et de l'accord entre l'Union européenne et Israël. Il reviendra à ce moment-là aux différents États de se prononcer à nouveau. À ce stade, on ne peut pas anticiper les conclusions, même si il y a peu de doutes, manifestement, que les droits humains soient effectivement bafoués.
Mais pour vous, c'est un signal, c'est une menace. Il faudrait aller jusqu'à la suspension de votre point de vue en tant que chef de la diplomatie belge ?
Écoutez, mon gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur cette étape-là, mais il m'apparaît à titre personnel que la violation des droits humains est assez manifeste depuis un certain temps et documentée, semble-t-il, par une série de rapports des Nations Unies. Mais comme mon gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur l'étape d'après,
j'entends bien.
Je ne vais pas pouvoir le faire
maintenant. Oui, vous vous exprimez en ce cas à titre personnel. Je sais que c'est très court, mais en quelques secondes, 30 secondes pas plus, la France envisage de reconnaître l'État palestinien dans les prochains jours. Est-ce que la Belgique va se joindre, oui ou non, à cette initiative ?
C'est une initiative que nous suivons avec grand intérêt. Oui. Notre volonté du côté du gouvernement belge, c'est de pouvoir effectivement arriver à ce que les conditions soient réunies pour la reconnaissance de la Palestine, c'est-à-dire notamment veiller à ce que le Hamas soit désarmé et qu'il y ait une reconnaissance mutuelle avec une sécurité des deux peuples qui soit garantie. Et si c'est le cas, on sera heureux alors de procéder à cette reconnaissance également. Elle est inscrite sur le principe dans notre accord de coalition du nouveau gouvernement mis en place il y a 3 mois.
Mais est-ce que j'entends bien, si j'entends dans ce que vous dites, et en un mot, que ça n'est que symbolique et pas forcément la priorité aujourd'hui ?
Ah, mais il ne faut jamais négliger la force et la puissance des symboles. Et donc, pour nous, il est inscrit dans les as que cette reconnaissance arrivera. Pour autant, bien sûr, ce n'est pas un chèque en blanc, que des conditions de sécurité mutuelle des deux peuples et de reconnaissance conjointe puissent être rencontrées pour aller vers cette solution à deux États. Mais en tout état de cause, la priorité, elle est d'abord, à l'heure où on se parle, humanitaire avant d'être symbolique.
Merci à vous, Maxime Prévost. Merci infiniment, monsieur le ministre, d'avoir été en ligne.
Je vous en prie.
De Bruxelles avec nous ce matin sur RFI.